marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue de votre émission enregistrée en public à Berlin, capitale de l'Allemagne. Pour la première fois, un symposium international réunit des personnalités africaines et européennes du monde politique et scientifique afin de réfléchir ensemble à ce qui s'est passé ici, à la conférence de Berlin en 1885. Partage de l'Afrique, organisation des règles de la colonisation, comment la conférence de Berlin pour les uns ou encore la conférence de la honte pour les autres nous est-elle racontée, comment faire face à ce passé colonial et comment ensemble le réparer. Autant de sujets aussi douloureux que passionnants évoqués dès la cérémonie d'ouverture par l'ancienne présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères de la République togolaise, le professeur Robert Dussé.
Je voudrais vous dire ceci. Vous saviez, pour nous, la conférence de Berlin, c'est le partage de l'Afrique sans l'Afrique. La conférence de Berlin, c'est le partage de l'Afrique sans les Africains. Que dois-je savoir sur la conférence de Berlin ? Ou autrement dit, que s'était-il passé ici à Berlin?
We do know that Africa's development capacity future was interrupted by the Berlin Conference.
Nous savons tous que le développement de l'Afrique, les capacités et l'avenir de l'Afrique ont été interrompus par la conférence de Berlin.
But we also know that there's so much of it that we had to subdue.
Nous savons également combien, en conséquence, il a fallu nous soumettre.
Because we had no choice.
Parce que nous n'avions pas d'autre choix.
Le passé colonial ici est un passé qui ne passe pas. C'est la vérité. Et qui refuse de passer. Parce que l'Afrique en garde une mémoire vive. Les 140 ans après la conférence de Berlin, l'Afrique entend être au centre de ses propres décisions, s'autodéterminer, parler d'elle-même et porter sa propre voix sur la scène internationale. Le renouveau actuel de l'idéal panafricain sur le continent.
But what I do want to say to you is that this conference is historical. It's also ambitious and it also is demanding.
Et j'aimerais ajouter que cette conférence est un événement historique sous le signe de l'ambition et qu'elle est exigeante.
Another opportunity to give Africa what it deserves.
Une nouvelle opportunité de donner à l'Afrique ce qu'elle mérite.
Truly, historically, we are tied together. Africa and Europe.
Historiquement, nous sommes véritablement liés, l'Afrique et l'Europe.
What we now need is to see ourselves united toward common goals.
Ce dont nous avons réellement besoin, c'est envisager ensemble nos objectifs communs.
That real partnership with a win-win situation for both of us.
Nous avons besoin d'un réel partenariat gagnant-gagnant.
Thank you.
Merci.
Thank you.
êtes bien sur RFI à l'écoute de la Marche du Monde, enregistrée en public à Berlin à l'occasion du symposium international consacré à la conférence de Berlin, dont les accords, signés en 1885 par 14 États, ont permis aux puissances européennes d'organiser l'exploitation coloniale des territoires africains. 140 ans après, politiques et scientifiques africains et européens font face au passé et affichent une volonté commune de faire connaître cette histoire méconnue aux jeunes générations. Avec nous sur RFI pour en parler, Flower Manaz, curatrice et chercheur au Musée national de Tanzanie. Elle s'exprimera en anglais. Hello Flower, and thank you to be with us.
Thank you.
Madame la ministre d'État allemande Katja Köhl, dont nous entendrons la voix en français. Nous avons déjà réalisé un entretien avec elle. Le philosophe tunisien Mohamed Turki, bonjour.
Bonjour.
L'ancien ministre guinéen de la Justice, Cher Sako, bonjour maître.
Merci.
Et puis Oumar Diallo, le directeur de Africa House, que je remercie particulièrement pour son invitation. Bonjour Oumar.
Bonjour Valérie.
Oumar Diallo, vous travaillez depuis de nombreuses années à valoriser la présence africaine ici à Berlin et à documenter tout ce qui concerne l'histoire coloniale africaine de l'Allemagne. Qu'est-ce que représente pour vous ce symposium? Je disais, c'est une première autour de l'histoire de la conférence de Berlin. Est-ce que c'est un tournant ici en Allemagne?
Je crois que ce qui est important, c'est le poids de l'histoire. Je mesure aujourd'hui le poids de l'histoire, sa grandeur et sa rigueur. Et je suis d'autant plus comblé que quand on a commencé ce travail-là, il y a plus de 30 ans, personne ne s'intéressait vraiment pas à ce passé qui ne passe pas, comme l'a dit le ministre et tout. Et donc, arrivé à ce jour maintenant où on parle du partage 140 ans après, et comme les fêtes ont la mémoire dure, et je ne suis que comblé et ravi. Maintenant, je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est qu'il faut qu'on se tourne vers l'avenir. Moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgie qui voit toujours le passé. Le passé doit nous permettre de mieux comprendre le présent afin de dégager des perspectives d'avenir.
Maître Cher Sako, vous qui avez exercé les fonctions de ministre de la Justice en Guinée, vous qui avez enseigné le droit à l'Université de Montpellier en France, qu'est-ce que symbolise pour vous la présence officielle de l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, nous l'avons entendu, ou du ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, ici à Berlin, 140 ans après la conférence de Berlin, où les Africains n'avaient pas droit au chapitre à l'époque?
Merci d'abord pour cette invitation. Et en effet, je suis content d'être à Berlin ces jours-ci pour cet anniversaire de la conférence de Berlin, qui date de 1884-85. Et comme vous dites, Madame Johnson, qui a été la première femme et chef d'État démocratiquement élue en Afrique, je pense qu'il faut insister là-dessus. Elle a fait deux mandats, elle s'est retirée. Et le Libéria étant un État voisin de la Guinée, donc en Guinée, nous sommes bien placés pour savoir ce qu'elle a fait dans son État. Un État qui sortait de guerre, qu'elle a réussi à mettre sur les rails. C'était pas facile. Ensuite, le ministre togolais des Affaires étrangères, qui est philosophe, qui est enseignant en philosophie, a aussi dit des mots assez touchants sur ce fait colonial. N'oublions pas que la conférence de Berlin a abouti sur ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique. L'Afrique divisée en micro-États avec une règle, et c'est le passé colonial. Alors, je suis heureux, moi, que j'ai écouté aussi le discours de l'ancien président allemand, où il y a nettement une reconnaissance de ce fait colonial. C'est à partir de cette reconnaissance qu'on peut bâtir l'avenir ensemble.
Quelles sont les traces de la conférence de Berlin organisée par le chancelier Otto von Bismarck à la fin du XIXe siècle, ici, dans les rues de la capitale allemande? Réponse avec vous, Oumar Diallo, dont nous avons suivi votre city tour proposé aux participants de ce symposium sur la conférence de Berlin.
Yeah.
C'est ici qu'a eu la conférence.
C'est ici qu'a eu la
Wilhelm.
Wilhelm, ça, c'est 92. La conférence de Berlin, elle a eu lieu exactement ici. C'était pour se mettre d'accord sur les modalités et les conditions de colonisation et tout. Les puissances qui se sont réunies ici pour des problèmes de modalité. Léopold est venu pour avoir le Congo comme propriété privée. La colonisation a accouché de ce qu'on appelait le Congo acté. Le Congo acté, il y avait trois points qui sont très importants. Le premier point, il fallait se mettre d'accord sur la navigation sur le fleuve Niger et le fleuve du Congo. Deuxièmement, ils se sont quand même mis d'accord pour la fin de l'esclavage. Il fallait mettre fin à l'esclavage. Et troisièmement, il fallait éviter les guerres inutiles entre les puissances qui se sont partagées l'Afrique, donc dans les différents domaines. Et donc, ils se sont réunis ici et puis se sont mis d'accord sur ces trois aspects de la situation. La conférence de Berlin n'a pas eu lieu qu'ici. La conférence de Berlin a débuté ici, mais elle s'est poursuivie dans plusieurs endroits à Berlin, notamment à la mairie centrale.
Omar Diallo, en quelle année cette stèle pour le partage de l'Afrique a-t-elle été posée? Et est-ce que vous pouvez nous redire à quelle adresse nous sommes ici, s'il vous plaît?
Alors, moi je suis arrivé en 1982-84 à Berlin. À l'époque, on ne parlait même pas de colonisation allemande. Il n'y avait aucune trace ici. Elle existe depuis 2001 grâce à l'initiative de Africa Forum. Nous devons cette plaque aussi grâce à nos amis togolais. Se souvenir, se réconcilier, tous ensemble, portons la responsabilité pour se tourner vers l'avenir. Nous, ce que nous faisons ici, c'est un travail de mémoire. On appelle ça en français un travail de mémoire. Il ne faut pas pleurer sur son sort. Il faut se lever et c'est un acte de résistance collective dont nous avons besoin en ce moment. Et ça, c'est contre l'abaissement de l'Afrique, l'abaissement de la race humaine, l'abaissement de l'humanité. Et c'est pourquoi cette plaque existe ici. Et donc, si vous voyez ce qui est écrit en français, on dit l'abaissement, la privatisation des droits, la déposition des Africains, ainsi que la destruction des cultures singulières du continent. Le 15 novembre 1884, la conférence de Berlin a eu lieu ici. Et à cette conférence, sous l'autorité de l'ancien chancelier Otto von Bismarck, avait invité les principales puissances présentes à l'époque en Afrique, l'Angleterre, la France, la Belgique, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Empire ottoman et les États-Unis. L'Afrique et les Africains, malheureusement, n'ont pas été invités parce qu'à l'époque, on se disait que c'était un continent, un RNLOSE continent. C'était un continent où les gens n'ont pas d'âme, on n'existait pas. Et donc, je suis content aujourd'hui de saluer nos amis camerounais qui sont présents aujourd'hui. Nous avons nos amis togolais qui sont présents aujourd'hui, et donc ensemble, et puis nous avons nos amis français aussi qui sont présents aussi, et nos amis allemands qui sont là. Donc ensemble, nous devons nous donner la main pour bâtir un monde meilleur, un monde pour tous nos enfants. Nous avons notre frère aussi, Mohamed, qui est de la Tunisie aussi, et donc c'est un peu toute l'Afrique en fait qui est représentée ici.
Mohamed Turki, ami présent ici à Berlin, philosophe tunisien sur les traces de la conférence de Berlin au 92 Wilhelmstrasse, un city tour passionnant où se sont pressés nombre de jeunes venus de toutes les régions de l'Afrique. J'ai discuté avec des jeunes camerounais, tanzaniens, rwandais, une présence africaine impressionnante dans les rues de Berlin. Vous me disiez pendant ce tour, Mohamed Turki, que cette histoire, elle concerne aussi la jeunesse d'Afrique du Nord. Pour quelles raisons ?
Oui, avant de parler justement, de répondre à cette question, j'aimerais bien rappeler que ma première visite à l'Africa House chez mon ami Omar Diallo a été couronnée par une randonnée spéciale avec lui à travers Berlin, tout en passant par tous les points de mémoire de l'histoire justement coloniale allemande. Et ça, ça m'a vraiment touché profondément ce temps-là. Et depuis, j'ai toujours sur ma carte, justement, géographique, c'est la carte de cette randonnée à travers Berlin. Et dans ce sens, j'ai été presque mis sur le bon chemin dans cette voie. Et bien sûr, votre question est essentielle, à vrai dire, vu que cette conférence de Berlin ne touche pas seulement l'Afrique subsaharienne, bien que l'Afrique du Nord, ce temps-là, a été déjà sous l'emprise française. Et c'était pour la Tunisie, qui était le deuxième pays, eh bien, en 1881, 3 ans avant la conférence de Berlin. Et dans ce sens-là, la conférence de Berlin a seulement confirmé cet état de fait colonial qui a été poussé par la France de l'Algérie vers la Tunisie.
Alors comment cette histoire est transmise ici en Allemagne alors qu'elle n'est toujours pas enseignée dans les manuels scolaires allemands ? Réponse de Madame la ministre d'État au ministère fédéral des Affaires étrangères, Katia Köhl, dont l'histoire familiale est intimement liée à la colonisation, puisque Katia Köhl est l'arrière-petite-fille de Karl Peters, explorateur et colonisateur de l'Afrique orientale allemande, ce qui correspond aujourd'hui à l'actuel Rwanda, Burundi et à une partie de la Tanzanie.
En fait, j'ai découvert que j'ai une liaison familiale avec le passé colonial parce que Karl Peters, il avait 7 sœurs, je crois, et la plus jeune sœur, c'est ma arrière-arrière-grand-mère. Bah, d'abord, je n'ai pas fait public parce que je ne me suis pas rendu compte si c'est important ou non, cette connexion familiale. Mais c'est par l'entretien avec les familles, les grands-parents qui étaient victimes, j'ai réalisé pour eux, c'est aussi important parce que ça nous lie. On est des descendants ensemble, les descendants des victimes, les descendants des perpetrators. C'est là où je me suis décidée de dire en public.
Depuis 2022, vous menez une politique de reconnaissance des injustices de la colonisation, de reconnaissance des crimes de l'humanité de la colonisation et de reconnaissance des crimes de génocide de la colonisation perpétrés donc par l'Allemagne à l'époque. Mais cette reconnaissance et ces demandes de pardon sont-elles suffisantes ? Comment transmettre cette histoire dont la jeunesse allemande ne semble pas connaître ?
Il y a plusieurs choses qu'on doit faire. C'est de reconnaître, bien sûr, l'injustice, mais c'est aussi de parler du passé, parce que j'ai compris que c'est important pour les descendants des victimes aujourd'hui de savoir que la jeunesse allemande aussi sache ce que s'est passé. Alors on doit en parler, faire des conférences comme aujourd'hui. Et bien sûr aussi regarder à nos écoles, les cours d'histoire. Et après tout aussi, on parle aussi de restitution, mais restitution dans un sens plus large, c'est pas la restitution, ce n'est pas le retour d'un objet et c'est fini, mais c'est tout le processus avant de retourner un objet et puis aussi la coopération après. C'est un processus qui va dans le futur, qui ne s'arrête pas avec le moment où un objet retourne. La coopération pendant les recherches, la coopération pendant la restitution et la coopération au futur, ça, en tout, c'est le processus qui est important.
Très concrètement, cela signifie que le gouvernement allemand s'engage et engage de l'argent pour favoriser une coopération scientifique. Est-ce que cela veut dire que vous envisagez cette écriture de cette histoire commune avec l'Afrique dans des programmes qui favorisent une coopération internationale avec des chercheurs africains et des chercheurs allemands ?
Oui, absolument. C'est aussi la conférence aujourd'hui qui montre qu'il y a des études qu'on finance comme ministère des Affaires étrangères. J'ai découvert que ça, c'est au moins aussi important que les musées, c'est les archives. L'histoire, c'est important pour les restitutions. Par exemple, j'avais une commission d'archives qui me visitait du Pacifique et cherchait les réponses dans les archives ici en Allemagne. On a commencé à regarder notre passé ici, mais aussi il y a d'autres partenaires européens qui sont en train d'avoir ces processus et je crois que c'est nécessaire qu'on échange encore plus. Alors j'ai invité au ministère ici à Berlin des représentants de la Belgique, de France, britannique pour échanger sur ces développements parce que chacun a des idées créatives et peut-être aussi des problèmes spéciaux et ça aide de nous échanger aussi parce que c'est une question à la fin européenne.
Comment s'assurer que cette politique très large et très ambitieuse de restitution va pouvoir perdurer, sachant que partout en Europe, le repli identitaire, la chasse aux immigrés se développe. Comment développer cette politique et la rendre pérenne? Êtes-vous inquiète?
Bien sûr, je suis inquiète par les développements politiques en Europe, la croissance des nationalistes. Ça, ce qu'on peut faire, c'est de continuer à parler de la dimension positive de cet échange, que c'est nécessaire pour le futur, pour pouvoir coopérer dans un sens qui est dans notre intérêt aussi, dans l'intérêt des Africains.
Pour préciser votre point de vue, Madame la Ministre, pour ceux qui pensent que parler du passé est du temps perdu, que parler du passé remue la douleur et peut-être même attise les haines, quel est le lien entre cette politique et finalement la coopération économique? Est-ce que vous voulez dire que assainir les relations entre l'Europe et l'Afrique permet non seulement d'écrire l'histoire, mais est-ce que ça a une influence, une incidence sur la coopération internationale, notamment économique?
Absolument, ça a une influence sur ce qui se passe aujourd'hui parce que ça nous permet de comprendre mieux nos partenaires et on a besoin de confiance, de se comprendre, ça crée de la confiance et c'est nécessaire pour résoudre les défis du futur.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
En ce qui concerne les restitutions, revenons en décembre 2022, au moment où l'Allemagne s'apprête à restituer 20 bronzes au Nigeria. Et c'est à l'époque la ministre des Affaires étrangères allemande en charge de ce dossier qui se déplace officiellement à Lagos, où elle restitue 20 œuvres d'art spoliées dans l'ancien royaume du Bénin. Le gouvernement allemand s'est alors engagé à rendre plus de 1130 trésors pillés. Un reportage issu de nos archives RFI, signé Lisa Fabian.
L'Allemagne a pris ces derniers mois des engagements majeurs pour le retour des trésors spoliés au Nigeria, comme l'explique Hermann Partzinger, le président de la Fondation du patrimoine prussien à Berlin.
Il était clair que nous voulions une solution. L'accord qui a été signé fin août acte le transfert de propriété de plus de 500 bronzes du Bénin en notre possession vers le Nigeria. 168 objets vont rester ici à Berlin en tant que prêts de longue durée.
En ramenant 20 objets sur le territoire nigérien, la diplomatie allemande fait un pas de plus pour guérir les blessures du passé et prendre en compte sa sombre histoire coloniale, a estimé la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, sur Twitter. Ce mouvement pour la restitution des trésors pillés dans l'ancien royaume d'Edo est de toute façon inévitable, selon Pejula Iwola, artiste et historienne de l'art nigériane.
Je pense que les Occidentaux ont fini par réaliser que peu importe pendant combien de temps ces œuvres d'art pillées resteront dans leur musée, ils ne pourront jamais en revendiquer la propriété. C'est devenu impopulaire de montrer ces œuvres, donc la meilleure chose à faire, c'est de les rendre.
Les précieux bronzes ont été remis au Nigeria sous le crépitement des flashs. Abati Djani, le président de la Commission nationale des musées et des monuments historiques, est l'un des principaux artisans des efforts pour la restitution des trésors du Bénin.
Ce tabouret était utilisé pour le couronnement de l'Oba de Bénin. Les gravures qui l'ornent disent beaucoup sur le peuple bini, sur leurs croyances, mais aussi sur certains événements historiques.
Le transfert de la propriété de plus de 1000 œuvres conservées dans les musées allemands a débuté à la fin du mois d'août. Pour l'Allemagne, il s'agit d'abord de reconnaître sa sombre histoire coloniale, selon la ministre Annalena Baerbock.
C'était une erreur de prendre ces œuvres, c'était une erreur de les garder pendant plus de 120 ans.
Cette diplomatie muséale vise aussi à faire de l'Allemagne un partenaire privilégié du Nigeria, notamment pour la formation du personnel des musées ou dans le cadre de futurs projets de recherche.
Nous voulons que cette occasion soit plus qu'un instant passager, car regarder le passé est une chose, mais nous sommes là en tant que représentants politiques, en tant que société, pour construire ensemble le futur.
Une partie des œuvres restera de toute façon dans les musées allemands, dans le cadre de prêts de longue durée. Lisa Fabian, Lagos, RFI.
L'exemple de la restitution des bronzes au Nigeria par l'Allemagne et le partenariat autour de la formation pour développer les compétences muséographiques des conservateurs nigérians, qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que c'est un bon exemple gagnant-gagnant, comme l'évoquait l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, en ouverture de ce symposium? Je me tourne vers vous, Flower Manaz. Vous êtes une experte sur la question puisque vous êtes conservatrice au Musée national de Tanzanie.
Thank you so much. For me, I feel like I'm speaking as a researcher now on the provenance of collections.
En ce qui me concerne, j'ai l'impression de parler en tant que chercheuse sur la provenance des collections. La question du Nigeria est différente de celle de l'Afrique de l'Est.
And we have listened during the conference, like each region, each country has its own way and approach in dealing with.
Et nous avons entendu pendant la conférence que chaque région, chaque pays a sa propre façon de parlementer, en fonction de sa culture et de l'histoire qui existe dans le pays. Je pense donc qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, au bon moment, compte tenu de l'histoire de ce pays, de ses contestations, de ses demandes et de ses exigences pour ses vestiges.
De votre côté, en Tanzanie, au Musée national, sur quel projet concret de restitution travaillez-vous, puisqu'on l'a bien compris, chaque nation, chaque région a sa propre histoire et a sa propre approche de cette question de la restitution.
For Tanzanian, as a reference, I feel like people are only referring to the restitution, ongoing restitution debates between Tanzania and Germany.
Pour les Tanzaniens, comme référence, j'ai l'impression que les gens ne font référence qu'à la restitution, au débat en cours sur la restitution entre la Tanzanie et l'Allemagne. Mais nous oublions qu'après l'indépendance, des restitutions ont eu lieu entre les anciennes colonies britanniques, c'est-à-dire entre les Kényans et les Tanzaniens, en termes de matériel paléontologique et archéologique.
Leaky collections, for instance, which were collected.
Les collections Leakey, par exemple, ont été collectées avant et après l'indépendance. Ces collections se trouvaient au Kenya, à Nairobi. Elles ont été apportées au musée et se trouvent toujours au Musée national de Tanzanie. J'ai donc l'impression que nous avons des cas concrets de restitution. Et les débats en cours ou à venir en Allemagne sur la restitution du matériel culturel ne sont pas si nouveaux, car nous avons déjà eu cette expérience avec les vestiges paléontologiques et archéologiques.
With paleontological and archaeological materials.
Quelle est la prochaine restitution, en quelque sorte, sur laquelle vous travaillez personnellement, Flower Manaz?
For now, as we said in the main conference, during the panel, for the case of Tanzania, when we are talking about the cultural materials, we are speaking about 125 cultural groups.
Pour l'instant, comme nous l'avons dit lors de la conférence principale, pendant le panel, pour le cas de la Tanzanie, lorsque nous parlons des matériaux culturels, nous parlons de 125 groupes culturels. Nous ne séparons donc pas les communautés. Nous considérons chaque communauté avec la même valeur et le même respect.
So we are not going, as I said, to exclude some and give some, but this is, I think, is not in the position of the researchers, but rather the government.
Comme je l'ai dit, nous n'allons pas exclure certains et en donner aux autres. Mais je pense que cela ne relève pas de la position des chercheurs, mais plutôt de celle du gouvernement. C'est donc à nous, chercheurs, de faire de la recherche et d'informer le gouvernement. Mais c'est aussi au gouvernement de travailler avec les autorités locales, là où se trouvent les communautés et de partager ces informations.
And for me, I feel like at the national and international level.
Pour ma part, j'ai l'impression qu'au niveau national et international, les gens doivent maintenant vraiment comprendre les priorités des pays qui peuvent différer de leurs propres intérêts et ils doivent les respecter.
In their own interest, and they should respect that.
En même temps, c'est aussi les difficultés que chaque pays africain traverse.
I won't say that it's not so easy because maybe if you look it from Europe and direct to Africa without the government, it's so difficult.
Je ne dirais pas que ce n'est pas facile, parce que si vous regardez l'Europe et l'Afrique sans le gouvernement, c'est très difficile. Mais pour le gouvernement qui a gouverné les gens là-bas, ce n'est pas aussi dur que ça l'est, parce qu'il y a beaucoup de représentations de base au gouvernement central. Entre les deux, il y a aussi les autorités locales. Et au sein du gouvernement local, il y a un conseil des anciens et beaucoup de choses qui se passent là-bas. J'ai donc l'impression que si nous suivons vraiment une voie appropriée à la manière africaine, il y aura des discussions fructueuses. Mais si l'Europe impose son propre mode de restitution et sa propre méthodologie, ce sera un aspect compliqué.
This will be a complicated aspect.
Bien compris le message.
Est-ce
Bien sur RFI à l'écoute du groupe tanzanien Diamond Platnumz pour cet épisode de La Marche du Monde enregistré en public ici à Berlin à l'occasion du symposium international consacré à la conférence de Berlin de 1885 où les puissances colonisatrices européennes se sont accordées pour se répartir l'exploitation des richesses naturelles et humaines de 90% du continent africain. Un partage de l'Afrique sans les Africains. Africains qui ne sont toujours pas représentés d'ailleurs au Conseil de sécurité de l'ONU deux siècles plus tard. Le panafricanisme peut-il être une réponse à cette exclusion historique du continent africain en ce qui concerne la gestion internationale de ses propres affaires? Une question débattue ici à Berlin avec nos invités. Cher Sako, ancien ministre de la Justice de Guinée, et Mohamed Turki, auteur et philosophe, messieurs, c'est à vous que ma question s'adresse, elle sera très concrète. Le panafricanisme a-t-il vécu lorsque l'on voit que l'AES, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sont sortis officiellement de la CEDEAO? Cher Sako.
Écoutez, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire un petit rappel. Une des conséquences de la conférence de Berlin, justement, au-delà de la balkanisation de l'Afrique en micro-État, il y a ce qu'on appelle en droit international le principe de l'intangibilité des frontières et qui existe depuis ce fait colonial. Et je dirais, c'est un gage de stabilité actuellement pour les États africains. Quelques exemples, vous prenez entre la Guinée et le Mali, vous avez quasiment une frontière artificielle, un village Kouré-Malé qui porte le même nom, Kouré-Malé-Mali, Kouré-Malé-Guinée. Vous prenez le Togo et le Ghana, dans les bas-fonds de Lomé, vous avez la frontière du Ghana. Et l'actualité nous donne un exemple aussi entre le Rwanda et la RDC. Donc voyez-vous, ce principe d'intangibilité des frontières est essentiel pour la stabilité des États. Quand on touche à ça, évidemment, ça dégringole beaucoup de choses et tout. Cela dit, ce n'est pas du tout incompatible avec le panafricanisme. Le panafricanisme qui a vécu depuis les indépendances, avec la création des blocs régionaux, voire sous-régionaux, et est battu en brèche actuellement par des États qui quittent ces blocs-là. Vous avez cité l'exemple des pays du Sahel, l'AES. Moi, je regrette, à titre personnel, en tant que politique, en tant qu'intellectuel africain, je regrette que ces États quittent la CEDEAO. Je l'ai dit en d'autres lieux, je le répète ici, je ne pense pas que ce soit forcément l'avenir de ces États. Je pense que je suis entendu, mais je ne désespère pas non plus que ces États reviennent plus tard dans la CEDEAO, peut-être sous une autre forme, puisque la CEDEAO aussi a des tares. Nous, on a vu en Guinée. En Guinée, quand il y avait eu la problématique du troisième mandat, la CEDEAO est restée bras croisés. Elle a laissé faire. Elle a même un peu encouragé indirectement. J'étais bien placé puisque j'étais en poste à l'époque. Donc voyez-vous, il y a beaucoup de choses à dire de la CEDEAO. Mais est-ce que c'est une raison de partir de l'organisation? Je ne le pense pas. Donc je reprends votre question. La création de l'AES, me semble-t-il, c'était un coup porté au panafricanisme. Mais je pense que c'est limité dans le temps, forcément. Puisque les autres organisations tiennent la route pour l'instant. Et même la CEDEAO, puisqu'il y a 15 États dans la CEDEAO, il n'y a que 3 États qui se retirent. Même si le ministre togolais, il y a encore quelques semaines, avait dit que le Togo pourrait partir de là. Mais c'était un ballon d'oxygène qu'il avait jeté un peu à la rivière. Je pense que ça ne ira pas plus loin.
C'est peut-être l'occasion de rappeler... Maître, que aux origines même de la création des États-nations au moment des indépendances dans les années 60, le panafricanisme n'est pas un concept revendiqué et partagé par tous. Il y a bien sûr la grande idée, la grande utopie de Nkrumah, premier président du premier pays indépendant, le Ghana, qui rêve des États-Unis d'Afrique. Mais il y a dans le même temps un Houphouët-Boigny qui préfère, lui, garder une verticalité dans les rapports entre l'Afrique et l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une mythification, voire une mystification de ce concept de panafricanisme, cher Sako, et ensuite Mohamed Turki?
Vous avez tout à fait raison. Il y avait eu cette lutte après les indépendances entre deux blocs qui s'opposait, le bloc dirigé, ou en tout cas dont le leader, un des leaders était Nkrumah Nkrumah, et puis l'autre bloc avec Houphouët-Boigny, Senghor et d'autres. Et on appelait le groupe de Casablanca, et puis je ne sais pas comment s'appelait l'autre groupe. Alors bien évidemment, ces deux groupes s'affrontaient, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même notion du panafricanisme et tout. Et ça, ça a perduré. Et quand... la première organisation de l'unité africaine, qu'on appelait à l'époque l'unité africaine, exista, les blocs cohabitaient à l'intérieur de l'Union africaine. Effectivement, c'est pourquoi non plus il ne faut pas voir les choses avec un œil d'angélisme et tout. Même au niveau de ces États, chaque État voit ses intérêts spécifiques. Au-delà des intérêts nationaux, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout que les Africains puissent donner la main. Vous avez cité le Conseil de sécurité. C'est curieux que ce grand continent qui a plus de 50 États n'ait pas de représentants. Ou même un groupe d'États ne soit pas représenté au niveau du Conseil de sécurité. Donc on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Et c'est l'union entre Africains, entre États africains qui peuvent aussi nous ouvrir beaucoup de portes.
Mohamed Turki, en tant que philosophe, quelle est votre vision du panafricanisme au XXIe siècle? Vous qui mettez... en garde contre le fait que la convoitise des puissances européennes en Afrique reste intacte. Vous aimez souligner et même comparer la situation actuelle au partage de l'Afrique sur les Africains en 1885. Vous y allez assez fort. Face à cette prédation, quel panafricanisme préconisez-vous?
Je crois que le panafricanisme, lorsqu'il a, disons, émergé, c'était une idée avant tout et une riposte à la conférence de Berlin. Et ça a commencé d'ailleurs chez la diaspora africaine, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et après, il a, disons, pied sur l'Afrique et avec les représentants justement des mouvements de libération des pays africains que le panafricanisme a trouvé sa place et sa voie, disons, en Afrique. Et à travers, bien sûr, Kwame Nkrumah, Nyerere et d'autres, et à travers la création de l'organisation de l'unité africaine. Et par la suite, on sait bien que l'OEA a été aussi remplacée par l'Union africaine. Et de ce fait, on voit toujours qu'il y a quand même une évolution et aussi une continuité de cette pensée, je dis bien, cette idée du panafricanisme qui n'est pas morte pour moi. L'union fait la force avant tout.
Avec Africa House, Oumar Diallo, et avec le travail que vous menez depuis des années sur cette présence africaine ici à Berlin, présence historique, présence militante, présence universitaire, avec de nombreux talents, certains d'entre eux sont dans la salle, qui viennent étudier ici à Berlin grâce à des programmes notamment financés par le ministère des Affaires étrangères allemand. Est-ce que cette idée de travailler ensemble fait son chemin ? Je précise ma question, c'est-à-dire est-ce qu'on est encore dans un raisonnement nord-sud ? C'est-à-dire qu'on met en place des programmes qu'on pense entre Berlin et Lagos ou entre Berlin et Douala, ou est-ce qu'on arrive à travailler entre Européens, entre Africains, pour essayer de penser ensemble ce que chacun veut, puisque Flower Manaz a vraiment insisté sur la spécificité des approches, de la notion de restitution notamment, de chaque pays africain, et même a-t-elle dit, de chaque communauté au sein de chaque pays africain. Est-ce qu'on peut continuer à réfléchir nord-sud ?
Je crois que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait que les Africains prennent les choses à bras le corps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre. C'est-à-dire que les enjeux sont tellement importants qu'il y va de la survie de l'humanité. Il y va de beaucoup trop de problèmes en même temps. Donc ce qu'il faudrait faire en ce moment, c'est comment faire en sorte qu'il y ait d'autres champs de réflexion, qu'il y ait d'autres possibilités d'innovation dans tous les domaines. Et je pense que c'est dans ce sens que nous voyons les choses et c'est dans ce sens que nous travaillons. Le problème ne se pose plus en termes d'africanité ou en termes d'européanité, mais nous aurons toujours affaire à ce problème-là. C'est-à-dire que, assez simplement, c'est-à-dire que nous aurons toujours affaire à un problème de mémoire, tu vois. Mais il ne s'agit pas d'avoir une histoire commune, mais il s'agit d'avoir des histoires partagées et acceptées par les uns et les autres. Je pense, aujourd'hui par exemple, j'écoute très souvent RFI et je crois qu'aujourd'hui même, il y avait une émission très importante sur la remise d'un rapport qui a été faite sur le Cameroun.
Karine Ramondi.
Voilà, c'est ça.
Sur la responsabilité de la France dans les assassinats des leaders nationalistes,
voilà, c'est
au
ça.
Cameroun.
C'est-à-dire que les chercheurs doivent travailler ensemble. Mais nous avons notre propre sensibilité, nous avons une manière de voir les choses. Les Maliens peuvent poser un certain nombre de problèmes que les Guinéens ne voient pas de la même. Mais nous devons travailler, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je pense que l'histoire veut que nous sommes condamnés à nous entendre, nous sommes condamnés à travailler ensemble, nous sommes condamnés à nous unir et tout. Donc je crois que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Europe d'ailleurs, parce que nous avons mis au monde un monstre justement. Donc ce monstre-là, il faut le gérer aussi, c'est ça le problème.
Cher Sako, Oumar Diallo, Mohamed Turki, Flower Manaz, un grand merci pour la qualité de vos interventions, pour votre présence africaine ici et sur RFI. Et merci beaucoup au public aussi qui s'est déplacé pour nous soutenir ici à Berlin pour ce symposium que j'ai envie d'appeler historique quand même, parce que je crois qu'il se passe quelque chose ici à Berlin, 140 ans après la conférence dite du partage de l'Afrique. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Ils ont partagé le monde. Je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu mets dans mon mal et l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien de médaille. Si tu me laisses l'uranium, chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de bled, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton or. Moi je t'aide à mettre le général dehors.
Un grand merci à tous, à nos invités, au public venu assister à l'enregistrement de l'émission. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs du Club RFI Berlin ici présents dans les murs de la Banque de Développement KfW. Berlin, 1884-1885, le partage de l'Afrique sans les Africains, un épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Richard Rifono et Sophie Janin, à réécouter en podcast via notre appli RFI Pure Radio. Réagissez, podcastez cette émission, c'est la vôtre. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Il se doit que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandin. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé le monde. Paris. Ils ont balayé le monde. Ils ont partagé le monde. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur. Ils ont partagé le monde. Rien n'est meilleur.